Radio Prague, les informations. Bonjour, le Grand-Duc de Luxembourg et Albert II de Monaco sont à Prague pour le 700e anniversaire de la naissance de Charles IV. Deux Tchèques ont été arrêtés en Nouvelle-Zélande en possession de 20 kilos de méthamphétamine et puis en France Sport en hockey sur glace. Les Tchèques ont signé une nouvelle victoire au Mondial et sont qualifiés pour les quarts de finale. Le président de la République, Miloš Zeman, a reçu le Grand-Duc de Luxembourg au château de Prague ce vendredi, alors que se tiendront ce samedi les célébrations officielles du 700e anniversaire de la naissance de Charles IV. Charles IV, roi de Bohême et empereur des Romains, considéré comme le père de la nation tchèque. Henri est un des trois membres des familles monarchiques qui seront présentes à Prague ces vendredi et samedi. Le prince Alois de Liechtenstein, prince héréditaire de la principauté, et le prince Albert II de Monaco ont eux aussi répondu positivement à l'invitation. Samedi, ils participeront notamment à une messe célébrée en la cathédrale Saint-Guy. Avant cela, ce vendredi soir, le grand-duc Henri, qui a été choisi pour rappeler les liens historiques qui existent entre la République tchèque et le Luxembourg, se verra remettre le prix Charles IV décerné par la ville de Prague et l'université Charles. Le porte-parole du président de la République, Jiří Ovčáček, va rencontrer lundi au château de Prague Peter Bistron, le leader du nouveau parti allemand d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne. Dans un entretien pour le site d'information actualnier.cz, Jiří Ovčáček a précisé que cette rencontre à caractère informel aura lieu au nom du chef de l'État, Miloš Zeman. Miloš Zeman, qui est connu pour son opposition aux réfugiés et pour son soutien à des organisations islamophobes. C'est Peter Bistron qui aurait demandé à rencontrer le président tchèque. Son parti a par le passé déjà reçu le soutien d'un ancien chef de l'État tchèque en la personne de Václav Klaus. Les douaniers néo-zélandais ont arrêté jeudi deux ressortissants tchèques en possession de 20 kilos de pervitine. La pervitine est une forme de méthamphétamine relativement populaire en République tchèque. Les deux individus ont été appréhendés à l'aéroport d'Auckland après un vol en provenance de Bangkok. La drogue était cachée dans des compartiments confectionnés au fond de deux bagages. La vente de cette pervitine aurait représenté des recettes de l'ordre de quelque 12 millions d'euros. Selon le quotidien néo-zélandais Otago Daily Times, les deux hommes risquent la prison à vie. Réunis à Prague ce vendredi, les ministres des Transports des pays du groupe de Visegrad, à savoir la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, et leurs homologues autrichiens et slovènes se sont engagés à réduire le nombre d'accidents graves sur les routes dites de Prague. Cette déclaration sur la sécurité routière fait référence au programme d'action de l'Union européenne, dont l'objectif est de réduire de moitié la mortalité et le nombre de blessés graves sur les routes d'ici à 2020. En République tchèque, le ministère entend mettre l'accent sur la formation des conducteurs, des peines plus sévères et des contrôles policiers plus réguliers sur les routes. Rappelons que l'année dernière, plus de 660 personnes sont mortes sur les routes en République tchèque, soit une quarantaine de plus qu'en 2014. On ouvre une page de sport avec tout d'abord l'arrêt du hockey sur glace. La République tchèque continue son sans faute au championnat du monde. Après la Russie, la Lettonie, la Suède et le Danemark, la représentation a remporté son cinquième match consécutif en battant le Kazakhstan 3-1 ce vendredi à Moscou. Cette nouvelle victoire permet aux Tchèques d'augmenter leur avance en tête du groupe A. Avec un total de 14 points, ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Avant cela, les Tchèques affronteront encore le Danemark dimanche, puis la Suisse mardi pour leurs deux derniers matchs de groupe. Un mot de football également, Tomáš Rosický n'évoluera plus à Arsenal la saison prochaine. Le milieu de terrain tchèque, dont le contrat arrive à terme, s'apprête à quitter le club londonien après 10 saisons passées sous les ordres d'Arsène Wenger. L'information a été confirmée par le manager français ce vendredi lors d'une conférence de presse. Ce week-end, Tomáš Rosický, qui a effectué récemment son retour sur les terrains avec l'équipe réserve, pourrait disputer son dernier match sous le maillot d'Arsenal. Ce sera contre Aston Villa. Âgé de 35 ans, Tomáš Rosický devrait néanmoins faire partie du groupe des 23 joueurs tchèques qui disputeront l'Euro en France en juin prochain pour la saison prochaine. Un retour au Sparta Prague, son club formateur, est envisagé. On termine ce bulletin avec un mot de météo. C'est un temps variable en Bohême, plus couvert en Moravie, c'est-à-dire dans le sud-est du pays, avec quelques faibles précipitations ici et là qui règnent ce samedi. Samedi qui est le jour de la fête des Bonifats. Les températures sont plutôt stables puisqu'elles varient entre 15 et 19 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. J'ai eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Pierre Maignan qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bien le bonjour les amis et bienvenue à l'écoute du programme quotidien de Radio Prague. Une émission consacrée, comme vous le savez, à l'actualité tchèque. Remercions d'abord tous ensemble Guillaume Narguet pour la qualité de son bulletin d'information. Voici le sommaire du jour. On parle d'abord du 700e anniversaire de Charles IV, avec des petits plats placés dans les grands et l'exposition des joyaux de la couronne tchèque au château de Prague à partir de ce dimanche, rien de moins. On évoque ensuite en compagnie d'Alžběta Tichá le congrès scientifique Living Planet organisé par l'Agence spatiale européenne pour la première fois à Prague et qui s'achève ce vendredi. Vendredi, c'est le jour que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi le jour de la revue de presse d'Alena Gebertova, à laquelle nous ne couperons évidemment pas dans la seconde partie de cette émission. Attachez vos ceintures et bonne écoute à tous et à toutes. Les festivités en l'honneur du 700e anniversaire du roi de Bohême et empereur du Saint-Empire Charles IV atteignent leur point culminant. Et pour cause, celui que les Tchèques ne craignent pas d'appeler le père de la patrie est né à Prague le 14 mai de l'anno Domini 1316. Des commémorations qui sont notamment marquées par l'exposition au public à partir de dimanche des joyaux de la couronne tchèque à la salle Vladislav du château de Prague, un trésor qui symbolise l'état tchèque et montré seulement en de rares occasions. En tant que plus haute sommité de l'État tchèque, le président de la République, le premier ministre, l'archevêque de Prague et primat de l'Église tchèque, les deux chefs des deux chambres du Parlement, le prévôt du chapitre de Saint-Guy ainsi que le maire de Prague disposent d'un privilège extraordinaire puisque ces sept personnalités sont en possession des sept clés qui permettent d'ouvrir la chambre de la cathédrale Saint-Guy où sont conservés les joyaux de la couronne tchèque. Jeudi, le clan des sept est passé à l'acte et a procédé à cette ouverture en vue de l'exposition au public à partir de dimanche et jusqu'au 29 mai du fabuleux trésor dans le cadre des commémorations du 700e anniversaire de Charles IV. Ce trésor, symbole d'une forme de continuité de l'État tchèque, n'est montré qu'en des occasions qualifiées d'exceptionnelles, par exemple l'élection d'un nouveau président de la République, et donc la dernière fois voici 3 ans. L'ensemble se compose d'un sceptre et d'un orbe qui datent tous deux du XVIe siècle, mais surtout de la couronne de Saint Venceslas. Cette couronne n'a en fait jamais été portée par le duc Przemyslid Venceslas, qui vécut dans la première partie du Xe siècle, puisqu'elle n'a été réalisée que bien plus tard à la demande expresse de Charles IV pour son couronnement en tant que roi de Bohême en septembre 1347. La couronne manifeste la volonté de ce prince de la dynastie des Luxembourg de s'inscrire dans la continuité des ducs et rois de Bohême en s'appuyant sur la figure légendaire de Venceslas, Václav Žurek, historien qui prépare actuellement une biographie sur Charles IV, a expliqué pour Radio Prague.
Il a beaucoup utilisé le culte de Saint Venceslas. La couronne s'appelle Saint Venceslas. Elle devait être sur la tête de Saint Venceslas. Et il y a l'épée de Saint Venceslas, la légende de Saint Venceslas, la chapelle dans la cathédrale qui est de Saint Venceslas aussi. Ça joue aussi un rôle important parce que c'était le saint, bien sûr, mais ce n'était pas un saint universel. C'était le saint qui était le patron du royaume de Bohême. On dit un duc éternel qui donne de temps en temps sa couronne aux gens qui règnent pour lui. Et cette vision qui était déjà actuelle sur les dernières Przemyslides, Charles IV a réutiliser cette idée et, disons, le manifester.
C'est quoi? C'est une dimension sacrée de cette couronne qui, celui qui la porte, est légitime à gouverner.
Cette dimension sacrée est aussi très importante pour Charles IV. Il a beaucoup joué avec l'idée que quelqu'un qui est un pendant la est sacré pendant le sacre, pendant le couronnement, est élu par le Dieu pour régner au peuple de son royaume.
Je ferai juste du coup une petite parenthèse pour parler de ces joyaux de la couronne qui sont montrés là à partir de dimanche et qui constituent un des événements visiblement majeurs de ces festivités. Comment vous voyez un petit peu ce qui apparaît être une sorte de nouvelle cérémonie très symbolique également
Je ne peux pas être, je ne veux pas être trop sévère, mais il me semble que c'est une sorte de montrer des reliques dans le sens médiéval. Au Moyen-Âge, on a beaucoup montré des reliques. Charles IV lui-même a disons, commencé une grande fête quand, sur la place de Charles, de nos jours, alors, là, on était montré des reliques, même la couronne de Charlemagne, etc. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Ça fonctionne de même style. Et comme vous savez, nous sommes dans la République, mais notre système républicain est très bien ancré dans le passé monarchique. Comment les présidents, surtout les deux derniers présidents, utilisent ces reliques de l'état médiéval tchèque, c'est presque royal.
L'entreprise de légitimation du pouvoir de Charles IV a donc plutôt bien fonctionné, comme l'indique Václav Žourek, au vu de la réutilisation contemporaine de cette couronne et de l'ampleur des commémorations prévues par les institutions étatiques et culturelles tchèques pour ce 700e anniversaire. Rien qu'à Prague, plus d'une vingtaine d'expositions sont organisées sur des thématiques liées au souverain. Dans le cadre du programme de la radio publique tchèque Karel je King, Charles est le King, une véritable fête d'anniversaire est d'ailleurs organisée ce samedi sur la colline pragoise de l'Etna. Le Centre des congrès de Prague accueille tout au long de cette semaine et jusqu'à ce vendredi le plus grand symposium de l'Agence spatiale européenne consacré aux missions d'observation de la Terre. Intitulée « Planète vivante », la conférence qui se tient tous les 3 ans et à laquelle participent actuellement quelques 3500 chercheurs, étudiants et représentants d'entreprises, a pour objectif de présenter les résultats des recherches les plus récentes ainsi que le développement en cours de nouvelles applications. Pour en parler, j'appelle tout de suite au studio Alžbieta Ticha.
La conférence Living Planet ou Planète vivante a été créée en 2004 avec l'idée de permettre aux scientifiques et professionnels de partager leurs expériences relatives à l'observation de la Terre via des satellites et à l'application des données collectées dans différents domaines, dont par exemple l'environnement, le climat, l'infrastructure, l'agriculture, la sylviculture ou encore l'océanographie. Après les rencontres précédentes d'Édimbourg, de Bergen, de Montreux et de Salzbourg, le symposium est pour la première fois organisé dans la capitale tchèque sous le patronage du ministère des Transports, responsable des activités spatiales tchèques, des ministères de l'Environnement et de l'Éducation et de l'Université Charles de Prague. Chef du département des technologies et applications spatiales du ministère des Transports, Ondřej Schwab se félicite de l'envergure de cette 5e édition.
Au total, 3500 personnes participent à cet événement, soit un nombre record pour le symposium Planète vivante. À noter que lors de l'édition précédente à Édimbourg, il y a 3 ans de cela, 1700 personnes étaient inscrites pour cette conférence. Nous avons donc plus que doublé ce chiffre.
La République tchèque a été le premier pays post-communiste à avoir rejoint l'ESA en 2008. Elle participe actuellement à un grand nombre de ses projets. Parmi eux figurent notamment le programme de navigation par satellite à l'usage civil Galileo, dont Prague accueille le siège officiel, ou le programme européen de surveillance de la Terre Copernicus. Ondřej Schwab précise.
projektu Evropské kosmické agentury v rámci programu pro pozorování.
Nous participons au projet de l'Agence spatiale européenne dans le cadre du programme d'observation de la Terre. Il s'agit par exemple de la recherche du champ magnétique et du champ gravitationnel. Nous développons également des applications à partir des données d'observation de la Terre, parmi lesquelles, entre autres, des applications pour l'Afrique, servant à la recherche de l'eau potable ou à la mesure de la qualité de l'eau dans les lacs. Mais nous développons bien sûr aussi des applications qui sont utilisées en République tchèque, par exemple dans le domaine de l'agriculture.
Le symposium à Prague a été inauguré en présence du directeur général de l'Agence spatiale européenne, Johann Dietrich Ferner, du premier ministre Bohuslav Sobotka et du ministre des Transports Dan Ťok. Outre les différents exposés, un programme d'accompagnement a été préparé pour les participants durant cette semaine, dont différentes expositions et également un stand tchèque, Ondřej Schwab.
Le stand tchèque a présenté ce que l'on fait en République tchèque, c'est-à-dire comment on utilise les données satellitaires. À cette présentation participaient d'une part des entreprises proposant des produits commerciaux, d'autre part des institutions académiques et des institutions nationales.
Bien que destinée prioritairement au public professionnel, la conférence a proposé également différentes activités pédagogiques. Les élèves des écoles primaires et secondaires pouvaient ainsi par exemple prendre conscience des principes de base de l'observation à distance de la Terre. À l'occasion de cette dernière journée des planètes vivantes, Ondřej Schwab fait un bilan de cette conférence qui pourrait, selon lui, avoir des conséquences positives pour la science spatiale tchèque.
Ce symposium représente pour nous une grande occasion pour la promotion et la popularisation du domaine de l'observation de la Terre. Parmi les participants, il y avait quelque 350 Tchèques, ce qui est vraiment beaucoup. Ils ont eu la possibilité d'assister à plusieurs centaines d'exposés divisés en 11 sections différentes, soit donc un nombre phénoménal. C'est pourquoi nous espérons que nous allons réussir à attirer vers l'observation de la Terre non seulement davantage d'étudiants, mais également davantage de sociétés qui pourraient développer leurs produits à partir de ces données.
La volonté de soutenir la recherche appliquée s'est par ailleurs déjà manifestée la veille de l'inauguration de la conférence lors d'une rencontre entre le directeur de l'ESA et des représentants des entreprises tchèques. Au programme de cette discussion figurait notamment leur coopération mutuelle dans l'avenir.
Depuis l'adhésion en 2004 du pays dans l'Union européenne, la perception des Tchèques de cette appartenance a foncièrement changé. Plus de détails dans cette nouvelle revue de presse d'Alena Gebertova, qui vous présentera aussi un extrait d'une interview dans laquelle l'archevêque de Prague, le très conservateur Dominik Duka, explique sa position à l'égard de la dite crise migratoire, et ensuite un autre regard sur la libération de la Tchécoslovaquie en 1945. Cette rubrique permettra aussi d'évoquer la nouvelle appellation officielle de l'Université Charles et la parution en version tchèque d'un livre sur André Breton, dont on commémore cette année le 50e anniversaire du décès. La parole est à Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Après la chute du régime communiste en novembre 1989, le pays affichait une orientation fortement pro-occidentale, un regard libéral sur l'économie du marché, ainsi que des attentes positives liées à l'OTAN et à l'Union européenne. Au début des années 1990, l'adhésion du pays à l'Union européenne représentait pour les Tchèques un symbole de l'appartenance du pays à l'Occident. Depuis, la popularité de cette institution n'a de cesse de baisser. Dans une note publiée sur le site ihned.cz, le sociologue Jan Hart réfléchit sur les causes de ce changement.
Dans une enquête effectuée en 1993, 85% des habitants ont exprimé leur accord avec l'entrée du pays dans la communauté européenne. La perspective d'un emploi plus attrayant, les possibilités d'études à l'étranger pour les jeunes, l'amélioration de l'environnement, le renforcement du droit et une plus grande discipline, la suppression de la corruption et une plus grande qualité de la démocratie. Autant d'espoirs qui ont été à l'époque liés à l'entrée du pays dans l'Union européenne. Si une grande partie de la population espérait une élévation de leur niveau de vie, les gens n'avaient pas de telles attentes en revanche d'une amélioration dans la sphère sociale, dans le domaine culturel et dans celui des relations humaines.
En 2004, au moment de l'entrée du pays dans l'Union européenne, à laquelle 77% des gens ont donné leur aval, une partie importante de la population se déclarait inquiète de perdre les certitudes sociales et de voir son niveau de vie baisser. La présidence tchèque de l'Union européenne en 2009, au bilan pour le moins mitigé, a renforcé chez les Tchèques le sentiment que la Tchéquie jouait dans l'Union européenne un rôle passif. La situation ultérieure compliquée sur la scène européenne, notamment en rapport avec la crise grecque et la crise migratoire, n'a pu que renforcer la méfiance et la réticence des Tchèques à l'égard des institutions européennes. Le sociologue Jan Hartl conclut.
Il faut admettre que la transformation de notre regard sur l'Union européenne est une chose alarmante. Le sentiment qu'il existe un important clivage entre les intérêts de l'Union européenne et nationaux est de plus en plus fort, comme si l'intégration de l'Europe ne constituait plus pour nous une évidence. Sera-t-on capable de trouver chez nous des personnalités pour lesquelles la coopération en Europe constituera un défi à relever ?
La position de l'Église catholique tchèque à l'égard de la crise migratoire est loin d'être aussi univoque que celle que dévoilent les gestes du pape François. C'est ce que constate l'édition de samedi dernier du quotidien Lidové noviny, qui a publié une grande interview avec l'archevêque de Prague et prima tchèque Dominik Duka. La peur de l'islam semble répandue et nourrie tant par les polémiques sur les réseaux sociaux que par certaines formations extrémistes locales, mais le cardinal, connu pour ses positions plutôt conservatrices, n'est pas d'accord.
La peur de l'immigration n'est pas un signe d'islamophobie ou de chauvinisme. C'est le fruit d'une simple conscience du fait qu'au cours de l'année écoulée, une politique migratoire sauvage a apporté des risques et des problèmes. En même temps, on voit que les migrants ne sont pas intéressés à venir dans les pays du groupe de Visegrad, en raison entre autres de la mémoire historique. C'est effectivement ici que se trouvait un grand champ de bataille entre l'expansion de l'islam et la défense de l'Europe chrétienne. Des questions sociales et des questions linguistiques contribuent aussi à la volonté des migrants d'aller ailleurs.
Dominik Duka estime qu'il existe deux façons extrêmes de réagir à la crise migratoire. Il y a celle qui néglige l'ensemble des problèmes qui y sont liés, ainsi que le fait qu'il existerait selon lui une prétendue politique des djihadistes. D'après le prélat, c'est à cette approche que l'on doit dans une grande mesure attribuer la prolifération de la peur au sein de la société. De notre côté, on voit ceux qui ne veulent accueillir aucun migrant et qui défendent, d'après ses propres paroles, des positions chauvines et irraisonnables, car parmi les réfugiés, on trouve des gens qui fuient pour se sauver leur vie. Et de constater que la population devrait apprécier le gouvernement pour son approche raisonnable à cet égard. Outre les grands anniversaires, comme le 71e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voici quelques jours, il y en a d'autres qui passent plus inaperçus. C'est ce qu'a noté sur son blog, mis en ligne sur le site actualnier.az, l'historien Vladimir Kuchera, en rappelant que 75 ans se sont écoulés depuis la mort dans un camp du goulag soviétique de Sergueï Wojciechowski, officier de l'armée tchécoslovaque. Ancien commandant de la Légion tchèque en Russie, qui s'était auparavant engagé du côté des armées blanches et qui est devenu dans les années 1920 citoyen tchécoslovaque, il a été au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale arrêté par un commando soviétique, puis déporté dans l'Union soviétique. Vladimir Kuchera situe cet événement survenu sur le territoire tchécoslovaque le 12 mai 1945 dans un contexte plus large.
Sergueï Wojciechowski n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de citoyens tchécoslovaques d'origine russe ayant quitté après la révolution d'octobre de 1917 leur pays pour fuir la terreur rouge et pour s'installer en Tchécoslovaquie et qui ont été immédiatement après la libération du pays retenus par le NKVD. Ce qui n'honore point le représentant tchécoslovaque de l'époque, c'est qu'ils n'ont guère défendu leurs concitoyens. Était-ce une preuve de la reconnaissance pour la libération ou bien un signe de résignation désasservie?
Selon Vladimir Kuchera, le nombre d'enlèvements ainsi que l'existence d'organisations clandestines implantées dans le pays et dirigées directement de Moscou témoignent de ce que la Tchécoslovaquie n'était pas un pays libéré, mais une proie. Le fait qu'aucune mention officielle du destin tragique de Sergueï Wojciechowski n'a été cette année faite est pour lui déplorable. Le quotidien Lidovenoveni a informé du projet de l'Université Charles de Prague de modifier son nom officiel à partir du mois de septembre en supprimant la particule de Prague. Alors que cette année est marquée par le 700e anniversaire de la naissance du roi de Bohême Charles IV, qui a fondé cette institution en 1348, le timing de cette démarche ne semble pas particulièrement heureux. Toutefois, le porte-parole universitaire Václav Havajek la justifie par le fait que des facultés faisant partie de l'université Charles se trouvent également en dehors de la capitale, dans les villes de Plzeň et de Hradec Králové. Le journal a aussi écrit.
Certains historiens voient cette décision d'un mauvais œil, indiquant que les principales universités européennes portent le nom de leur ville respective. D'autres, en revanche, rappellent que dans son histoire, l'université Charles a vu son nom modifié à plusieurs reprises. Par ailleurs, son nom n'a pas été défini par le vœu de son fondateur, mais en évoluant au fur et à mesure. L'université pragoise et les universités pragoises sont par exemple les appellations utilisées pour sa phase la plus ancienne.
À l'heure actuelle, l'Université Charles, la plus ancienne université du pays, qui est composée de 17 facultés, accueille plus de 50 000 étudiants répartis dans des cours couvrant quelques 700 disciplines. Les pages culturelles du quotidien économique Hospodářské noviny ont retenu la parution en version tchèque du livre André Breton et les données fondamentales du surréalisme de Michel Carouge. Jan Gabriel, poète et surréaliste, remarque à ce sujet qu'il s'agit d'un livre classique qui permet de comprendre ce monstre absurde qu'est le surréalisme et d'ajouter.
Même s'il est sorti il y a déjà une soixantaine d'années, le livre demeure toujours d'actualité et peut servir d'inspiration. Sa version tchèque, dans la préface de laquelle on peut lire que le surréalisme est une révolte radicale contre cette civilisation, sort à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'André Breton. En dépit de certains défauts éditoriaux, le livre a tous les atouts pour attirer même les lecteurs qui ne savent pas grand-chose sur le surréalisme et sur André Breton.
Une occasion de rappeler les liens très forts qui existaient entre les surréalistes français et tchèques dans les années 1930, avant d'être interrompus par la Deuxième Guerre mondiale et avant d'être soumis aux impératifs du régime communiste.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui s'achève avec la revue de presse d'Alena Gebertova, revue de presse toujours aussi exceptionnelle. Merci d'avoir suivi notre émission, notre programme. Vous pouvez retrouver tous nos articles sur notre site internet au www.radio.cz/fr. Je vous aime et à bientôt. Ahoy les amis.